Chapitre 5. Les personnages du drame. Avez-vous encore affaire dans ce cabinet de travail? Nous dit M. White Mason quand nous rentrâmes. Oh, pas pour l'instant, répondit l'inspecteur, tandis que de son côté Holmes secouait négativement la tête. Peut-être non, vous serait-il agréable d'entendre quelques personnes de la maison. Nous pourrions nous installer dans la salle à manger. Holmes, accompagnez-nous et dites-nous ce que vous avez à nous dire. La déposition du maître d'hôtel, simple, nette, nous donna l'impression d'une parfaite franchise. Il était entré au service de M. Douglas 5 ans auparavant, quand celui-ci était venu à Burlstone. M. Douglas passait pour un riche gentleman qui avait fait fortune en Amérique. Holmes avait trouvé en lui un maître bienveillant, commode, un peu différent comme genre de ce à quoi il s'attendait, mais on ne pouvait pas tout avoir. Jamais il n'avait remarqué chez lui aucun signe d'inquiétude. Au contraire, il ne connaissait pas un homme plus étranger au sentiment de la peur. M. Douglas voulait qu'on relevât le pont chaque soir parce que c'était l'ancienne coutume du manoir et qui tenait à suivre les anciennes coutumes. Il allait rarement à Londres et sortait guère du village. Cependant, la veille, il s'était rendu à Tunbridge Wells pour y faire quelques emplettes. Ce jour-là, exceptionnellement, il traversait d'une certaine agitation. Il se montra impatient, irritable. Et dans la soirée, Holmes, avant de se coucher, rangeait tardivement l'argenterie, quand il entendit un violent coup de sonnette. Mais aucune détonation ne parvint jusqu'à lui, ce qui s'explique par le fait que l'office et la cuisine sont situés à l'arrière de la maison et séparés de l'avant par un long couloir que ferment plusieurs portes. Au coup de sonnette, la gouvernante était sortie de sa chambre. Elle avait, en compagnie du maître d'hôtel, couru vers l'endroit d'où l'appel était parti, et comme ils arrivaient au pied de l'escalier, tous les deux avaient vu alors Mrs. Douglas descendre les marches, sans précipitation d'ailleurs, et sans apparence d'émotion particulière. Elle finissait de descendre quand M. Baker sortit en courant du cabinet de travail et arrêta Mrs. Douglas et la conjura de s'en retourner. « Pour l'amour de Dieu, revenez dans votre chambre » criait-il. « Le pauvre Jack est mort. Vous pouvez rien faire. Pour l'amour de Dieu, retirez-vous. » Une brève discussion s'engagea dans l'escalier. Enfin, Mrs. Douglas se laissa convaincre. Elle ne fit pas de scène, ne jeta pas les hauts cris. Mistress Allen la reconduisit dans sa chambre. Cependant, M. Baker rentrait dans le cabinet de travail. Holmes le suivit. Ils trouvèrent tout dans l'état où il devait se trouver la police. La bougie était éteinte, la lampe allumée. Ils regardèrent par la fenêtre, mais la nuit était noire et silencieuse. Ils ne virent ni n'entendirent rien. Holmes hâta d'aller dérouler la chaîne du pont-levis et M. Baker courut chercher la police. Mistress Allen, la gouvernante, ne fit que corroborer les déclarations du maître d'hôtel. Elle occupait une chambre moins reculée que l'office. Elle allait se coucher quand retentit la sonnette. Elle avait l'ouïe un peu dure et, pour cette raison peut-être, n'avait pas entendu la détonation. Au surplus, le cabinet du travail était loin. Elle se souvenait qu'une bonne demi-heure avant le coup de sonnette, elle avait perçu un bruit qui lui avait paru être celui d'une porte qui claque. Elle accompagna M. Holmes quand il courut vers le cabinet de travail. Elle en vit sortir M. Monsieur Barker, très excité et très pâle. Monsieur Douglas descend, Mistress Douglas descendait l'escalier. Il l'arrêta, la prit instantanément de s'en retourner. Elle lui répondit. Et Mistress Allen n'entendit pas cette réponse. Ramenez-la, lui dit Monsieur Barker, et restez auprès d'elle. Elle ramena donc sa maîtresse et s'efforça de la calmer. Mistress Douglas, bien que hors d'elle et tremblante, ne fit pas mine de redescendre. Vêtue d'un simple peignoir, elle demeura près du feu, la tête entre les mains. Mistress Allen passa la nuit à son côté. Les autres domestiques étaient tous couchés. Leur chambre se trouvant à l'extrémité de la maison, aucun bruit ne les avait probablement atteints. Ils n'intervinrent qu'au moment où arrivait déjà la police. Mrs. Allen ne put rien ajouter que des lamentations et des mots effarés. Appelée à témoigner après elle, M. Cecil Baker compléta ses premières déclarations. Il était convaincu que le meurtre avait fui par la fenêtre. À cet égard, il considérait comme probable la tache de sang imprimée sur l'appui. Et d'ailleurs, à défaut du pont-levis qui était remonté, il n'y avait pas d'autre issue. M. Baker ne s'expliquait pas ce qu'était devenu l'assassin, ni pourquoi il avait abandonné sa bicyclette, si cette machine était la sienne. Impossible de croire qu'il se fût noyé dans le fossé, qu'il n'avait à aucun endroit plus de 3 pieds de fond. En son fort intérieur, M. Baker avait une opinion très arrêtée sur le meurtre. Douglas était un homme plein de réticence, ce qui laissait dans l'ombre certains chapitres de l'histoire de sa vie. Tout jeune, il avait émigré d'Irlande en Amérique. Il avait fait de bonnes affaires. Et il était veuf quand Barker l'avait rencontré en Californie. Les deux hommes s'étaient associés pour l'exploitation d'une mine au lieu dénommé Benito Canyon. L'entreprise marchait à souhait, néanmoins. Douglas avait vendu tout d'un coup et pris le bateau pour l'Angleterre. À quelque temps de là, Barker, ayant réalisé de son côté pour pouvoir vivre à Londres, leur amitié s'était renouée. Baker avait eu l'impression d'un danger planant sur la tête de Douglas. Il s'était toujours expliqué par un sentiment de juste crainte ce brusque départ de Californie, cette retraite au fond d'une campagne anglaise. Sans doute quelque société secrète poursuivait Douglas d'une haine implacable. Il aurait de cesse avant de l'avoir tué. Certains propos de son ami avaient concouru à lui donner cette idée, bien que jamais Douglas ne se fût allé jusqu'à lui dire quelle était la société en question, de quel tort il avait envers elle. Barker présumait que l'inscription de la carte n'était pas sans rapport avec tout cela. Combien de temps avez-vous passé avec Douglas en Californie? Demanda l'inspecteur MacDonald. 5 ans. Il vivait avec vous en célibataire. Il était veuf. Et avez-vous jamais su d'où venait sa première femme? Non, je me rappelle avoir entendu dire qu'elle était suédoise et j'ai vu son portrait. Oh, c'était une femme très belle. Elle mourut d'une fièvre typhoïde 1 an avant que je fasse la rencontre de son mari. Vous ne rattachez le passé de Douglas à aucun endroit particulier de l'Amérique. Mais il parlait quelquefois de Chicago où il avait travaillé. Les régions du charbon et du fer ne lui étaient pas étrangères. On avait beaucoup voyagé en son temps. Faisait-il de la politique? Une organisation politique aurait-elle eu contre lui des griefs? Oh non, 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 il ne s'intéressait pas à la politique. N'auriez-vous aucune raison de croire qu'il fût un criminel? Oh, loin de là, je n'ai jamais vu pareille droiture chez un homme. Rien de curieux dans sa façon de vivre en Californie? Non, son plaisir, c'était le séjour et le travail à la mine, dans la montagne. Il évitait les lieux fréquentés. Aussi ne tardais-je pas à penser qu'il avait quelqu'un à ses trousses. Et son départ subit pour l'Europe changea mes soupçons en certitude. Il avait dû recevoir un avertissement. Et la semaine d'après, une demi-douzaine d'hommes me recherchaient. Des hommes de quelle espèce? Oh, un peu rassurant à voir. Ils vinrent à la mine s'enquérir de lui. Je leur dis qu'il était parti pour l'Europe et que j'ignorais le lieu de sa destination. On se rendait compte qu'il ne voulait pas du bien. Était-ce des Américains, des Californiens? Bon, des Californiens, je ne sais. Mais des Américains, sans aucun doute. Et d'une catégorie mal définie. En tout cas, pas des mineurs. Je fus heureux de leur voir les talons. Il y a de cela 6 ans. Oh, presque 7. De sorte que votre société avec Douglas en Californie ayant duré 5 ans, l'affaire remonte à 11 ans pour le moins. Mais le calcul me paraît juste. La haine comportait à cet homme devait être profonde et tient à de graves motifs pour n'avoir pas désarmé l'ancien si longtemps. Elle le préoccupait sans cesse. Je crois qu'elle jeta une ombre sur toute sa vie. Mais ne vous semble-t-il pas qu'un homme qui sentirait sur lui un danger constant réclamerait la protection de la police? Ah, peut-être s'agissait-il d'un danger contre lequel il n'existait qu'aucun moyen de protection. Apprenez une chose. Douglas sortait toujours armé. Son revolver ne quittait pas sa poche. La malchance a voulu la nuit dernière qu'il fût en robe de chambre. Elle n'eut pas son arme sur lui. Une fois le pont remonté, il était tranquille. Je tiendrai à éclaircir la question des dates, fit MacDonald. Il y a 6 ans que Douglas était parti de Californie. Et vous l'avez suivi, n'est-ce pas, à un an d'intervalle? Parfaitement. Et il était aujourd'hui remarié depuis 5 ans. Vous deviez être de retour à l'époque de son mariage. Oui, j'étais arrivé le mois avant. Je fus son garçon d'honneur. Connaissiez-vous Mrs. Douglas avant qu'elle épousât votre ami? Non, non, j'avais passé 10 ans au loin. Mais ensuite, vous l'avez beaucoup vu? Barker regarda sévèrement le détective. Oui, ensuite, j'ai beaucoup vu Douglas, répéta-t-il. Quant à elle, je l'ai beaucoup vu parce qu'on ne peut pas fréquenter un homme sans connaître sa femme. Et si vous vous figurez qu'il y a le moindre rapport... Oh, je ne me figure rien, monsieur Barker. Je suis tenu de ne négliger aucun élément d'information. Mais il n'y a pour vous dans mon esprit aucune pensée les offensante. Oui, mais certaines questions sont une offense par elles-mêmes, répondit Barker sur un ton d'humeur. Mais nous ne recherchons que les faits. Il y a de notre intérêt, de l'intérêt commun, que tout soit tiré au clair. Monsieur Douglas, approuvait-il entièrement votre amitié avec sa femme? Baker devint pâle. Et joignant ses grandes mains dans une étreinte convulsive, Et vous n'avez pas le droit, s'écria-t-il, de me poser une pareille question. En quoi peut-elle intéresser l'affaire? Bien, cependant, il faut que j'insiste. Eh bien, je refuse de répondre. Soit, mais vous comprendrez que votre refus équivaut à une réponse, car vous répondriez si vous aviez quelque chose à cacher. Monsieur Barker se tut un moment. Le visage tiré, sombre, les sourcils bas, comme sous l'effort d'une concentration intérieure. Puis il releva la tête, et avec un sourire, « Bon Dieu, messieurs, je suppose que vous faites votre devoir, et qu'il ne m'appartient pas de vous gêner. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas ajouter, par une question de cette nature, aux ennuis déjà suffisants de Mistress Douglas. Pourquoi ne pas le reconnaître? Le pauvre Douglas n'avait qu'un défaut, sa jalousie. Il me portait la plus grande amitié. Jamais un homme n'en aima davantage un autre. Il était très attaché à sa femme. Aussi, tout en se plaisant à mes visites, tout en ne cessant pas de me relancer, il supportait mal que sa femme causât avec moi ou qu'il eût entre nous un semblant de consympathie. Sa jalousie l'emportait. Il ne se possédait pas. Il se livrait à des scènes folles. Maintes fois, je lui jurais que je ne mettrais plus les pieds chez lui. Mais alors, il m'écrivait des lettres si contraintes, si suppliantes. Entendez-moi bien, messieurs. Quand ce devait être mon dernier mot, j'affirme que jamais homme n'eut une femme plus aimante, plus fidèle, ni, je ne crains pas de l'ajouter, un ami plus loyal. Et cela fut dit avec une chaleur pleine d'éloquence. Mais l'inspecteur Donald ne s'en laissait pas facilement remontrer. « Vous savez, recommença-t-il, qu'on a pris au mort son anneau de mariage. Oui, à ce qu'il paraît. Comment à ce qu'il paraît? C'est un fait. » La confusion, l'hésitation de Barker était visible. « Je voulais dire que Douglas pouvait l'avoir enlevé lui-même. Mais la simple absence de l'anneau, quelle que soit la personne qui l'ait fait disparaître, donnerait à penser, n'est-ce pas, qu'il existe un lien entre le mariage et le drame. » Barker leva ses larges épaules. Mais pas à faire état de ce qu'elle donnerait à penser. Mais si vous prétendez que, d'une façon quelconque, elle mit en jeu l'honneur de Mrs. Douglas, les yeux de Barker lancèrent des flammes. Néanmoins, il sut réprimer son émotion pour conclure. « Vous ferez fausse route, voilà tout. »« Je ne vois pas, » répliqua froidement l'inspecteur, « que j'ai pour l'instant autre chose à vous demander. »« Un petit détail, » fit Holmes. « Quand vous êtes entré dans le cabinet de travail, seul, n'est-il pas vrai, la bougie brûlait sur la table ?»« Oui, et vous avez eu à sa lumière la révélation du tragique événement. » Oui. Alors vous avez aussitôt sonné pour avoir du secours. Aussitôt. Et le secours est promptement arrivé dans la minute. Et à ce moment-là, ce n'était plus la bougie qui brûlait, mais la lampe. Voilà un point digne de remarque. Barker parut de nouveau, tant soit peu interloqué. Bon, je ne sais ce qu'il y a de remarquable là-dedans, monsieur Holmes, dit-il après une pause. La bougie éclairant mal, ma dernière pensée fut d'y voir mieux. La lampe se trouvait sur la table, je l'allumais, et après avoir soufflé la bougie, naturellement. Holmes s'entint là, et Barker, après nous avoir regardé tour à tour d'un air qui me sembla exprimer la méfiance, nous tourna le dos et sortit. L'inspecteur MacDonald avait d'un mot avisé Mrs. Douglas qu'il mettait à sa disposition pour se rendre auprès d'elle. À quoi elle avait répondu qu'elle préférait ne pas me rencontrer dans la salle à manger. Elle entra, grande, belle, dans tous les classes de ses 30 ans, très digne, très calme, tout à fait différente du portrait douloureux que je m'en étais fait. Sans doute elle était pâle, elle avait les traits défaits comme après une cruelle secousse, mais elle se composait, une attitude, et sa main délicate posée sur le bord de la table ne tremblait pas plus que la mienne. Elle promenait sur nous un triste regard qui nous consultait l'un après l'autre avec une curiosité mêlée de prière. Enfin, l'interrogatoire de ses yeux se formula dans sa voix. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle. « Rêvais-je ? » Il me parut y voir, sous sa question, plus de crainte que d'espérance. « Nous avons pris toutes les mesures possibles, Mrs. Douglas, » répondit l'inspecteur. « Soyez assurés que nous ne négligerons rien. »« Ne mélangez pas l'argent, » fit-elle d'une voix égale sans timbre aucun. « Je dirais qu'on ne m'épargna aucun effort. » Peut-être avez-vous à nous fournir quelques renseignements susceptibles de nous éclairer. J'en doute, mais tout ce que je sais est à votre service. Monsieur Barker nous a dit que vous n'aviez rien vu. Vous n'êtes pas entré dans la chambre où s'est produit le crime. Non, non, monsieur Barker m'arrêta dans l'escalier en m'engageant à revenir chez moi. Oui, c'est bien ça. Vous avez entendu le coup de feu et vous êtes accouru. Mais je passai un peignoir, je descendis. Combien de temps y avait-il que la dénotation s'était faite entendre quand M. Becker vous arrêta dans l'escalier? Bon, environ 2 minutes, je suppose. On ne calcule rien le temps dans ces moments-là. M. Barker me supplia de remonter. Il m'assura que je n'étais d'aucune assistance à personne. Puis Mrs. Allen, ma gouvernante, me ramena. Oh, je croyais vivre un cauchemar. Savez-vous à peu près quel intervalle s'écoula entre l'instant où votre mari descendit et celui où retentit le coup de feu? Non, je l'ignore. Je n'avais pas entendu mon mari sortir de son cabinet de toilette. Il faisait le tour de la maison tous les soirs par crainte du feu. C'est la seule chose que je l'ai vu craindre. Eh bien, voilà précisément le point où je voulais en venir, Mrs. Douglas. Vous n'avez connu votre mari qu'en Angleterre, n'est-ce pas? Oui, nous étions mariés depuis 5 ans. Et vous a-t-il jamais parlé de quelque chose qui ne lui serait jamais arrivé en Amérique et qui aurait déterminé pour lui un état de danger? Mrs. Douglas réfléchit avant de répondre. Ben, « J'ai toujours, dit-elle enfin, senti peser sur lui une menace, mais il refusait de s'en expliquer avec moi. Oh, non par manque de confiance, car entre nous la confiance et l'affection étaient complètes, mais par souci d'écarter de moi toute inquiétude. Il pensait que je me tourmenterais, et il gardait le silence. » Alors, comment avez-vous su? Le visage de Mrs. Douglas s'éclaira d'un fugitif sourire. Un mari peut-il porter toute sa vie un secret en le dérobant à la femme qu'il aime? Non, je devinais bien des signes qu'il avait un secret. Je devinais à son parti pris de me cacher certains épisodes de son existence en Amérique. Je le devinais aux précautions dont il s'entourait, à des mots qui lui échappaient, à sa façon d'examiner les visiteurs imprévus. Et j'acquis l'absolue certitude qu'il avait des ennemis puissants, qu'il les croyait lancés à sa poursuite et qu'il se tenait sur ses gardes. J'en étais si sûr que pendant 5 ans, Il n'a pu sortir de chez lui sans que j'aie tremblé chaque fois qu'il rentrait, pas à l'heure. Puis-je vous demander, dit Holmes, quel mot lui échappait, qui attire votre attention en éveil? La vallée de la peur, répondit Mrs. Douglas. C'était une expression dont il se servait quand je lui posais des questions. J'ai été dans la vallée de la peur, n'en suis pas encore sorti, disait-il. Ne soyons jamais de la vallée de la peur, lui demandai-je. Un jour que je le voyais plus préoccupé de coutume. Oh, j'en viendrai parfois à le croire, me répondit-il. Vous l'avez certainement demandé ce qu'il entendait par vallée de la peur. Oui, mais alors son visage devint grave. Il hocha la tête. C'est, me dit-il, une chose assez funeste que l'un de nous soit jamais entré dans son ombre. Plaise à Dieu que cette ombre ne s'appesantisse pas sur vous. Il avait ainsi désigné un endroit où il avait vécu, où il avait eu une quelconque aventure terrible. Mais n'en sait pas plus. Jamais il ne vous a cité un nom? Ah si, une fois. Oh, il y a 3 ans, dans le délire de la fièvre, après un accident de chasse, je me rappelle qu'un nom lui venait continuellement aux lèvres. Il le prononçait d'un ton de colère, avec une sorte d'horreur. Ce nom, c'était McGinty. Maître McGinty. Je lui demandais, quand il fut guéri, quel était ce maître McGinty et de qui il était le maître. Grâce à Dieu, il n'est pas le mien, me répondit-il en riant. Je ne peux pas en tirer davantage. Mais j'établis un lien entre ce McGinty et la vallée de la peur. Encore une question, dit MacDonald. Sauf erreur, vous avez connu M. Douglas dans une pension de famille à Londres. Vous lui avez accordé votre main. Est-ce qu'il y eut dans ce mariage une part de romanesque, quelque chose de secret ou de mystérieux? Oh, du romanesque, il y en eut. Il y a toujours du romanesque. Mais du mystère, non. Aucun rival ne vous disputait à lui? Oh non, aucun. J'étais absolument libre. Vous devez savoir qu'on lui a pris son anneau de mariage. Ça ne vous suggère-t-il rien? Supposez qu'un ennemi ancien, ayant retrouvé sa trace, ait commis le crime. Quel motif pouvait avoir cet homme de lui prendre son anneau? J'aurais juré qu'un vague sourire flottait sur les lèvres de Mrs. Douglas. En vérité, je ne le vois pas, répondit-elle. C'est une chose extraordinaire. Bon, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps, acheva MacDonald. Excusez-nous de vous avoir ainsi dérangé dans une pareille heure. Bien des points seront encore à élucider, et nous vous les soumettrons au fur et à mesure. Elle se leva, et l'espace d'une seconde, je vis repasser dans ses yeux le regard interrogateur qu'ils avaient eu quand ils s'étaient trouvés en notre présence. « Quel effet vous a produit mon témoignage ?» disait-il aussi expressément que des paroles. Puis elle s'inclina et s'éloigna. « Elle est belle, vraiment belle !» dit MacDonald d'un air pensif quand elle eut refermé la porte. Ce Barker a fait d'ici de nombreux séjours. C'est un homme qui ne doit pas manquer de séduction pour une femme. Il admet que le mort était jaloux. Peut-être connaît-il comme personne les raisons de cette jalousie. Puis il y a l'incident de l'anneau auquel on ne saurait ne pas s'arrêter. L'homme qui enlève à un mort son anneau de mariage. Qu'en dites-vous, monsieur Holmes? Mon ami, le front dans les mains, semblait méditer. Soudain, il se leva et sonna. Ah, monsieur, dit-il, quand le maître d'hôtel apparut. Où est monsieur Cécile Barker? Ah, je vais voir, monsieur. Et au bout d'un instant, M. revint annoncer que M. Cécile Barker était au jardin. Vous rappelez-vous, Hams, quelles chaussures M. Barker avait aux pieds la nuit dernière quand vous l'avez rejoint dans le cabinet de travail? Oh oui, M. Holmes, il avait des pantoufles. Je lui apportais ses bottines pour qu'il allât chercher la police. Et où sont maintenant les pantoufles? Oh, ils sont encore dans la chambre du hall, sous la chaise. Très bien, c'est bien. Il importe naturellement que nous distinguions entre les empreintes qu'a pu laisser M. Parker et les traces de pas qui sont venues de dehors. Oh, cher monsieur, j'ai quant à moi remarqué que les pantoufles de Mrs. Barker étaient tachées de sang, comme les miennes du reste. Mais cela se conçoit, étant donné l'état de la pièce. Parfait, monsieur. Nous vous saurons si nous avons de nouveau besoin de vous. Quelques minutes plus tard, nous étions dans le cabinet de travail. Holmes avait pris dans le hall les pantoufles de tapisserie. Et comme le maître d'hôtel l'avait observé, toutes les deux avaient du sang aux semelles. Dans un mouvement d'une agilité féline, il se pencha et posa une de ses pantoufles sur l'appui à l'endroit où était la tache de sang. La pantoufle correspondait exactement à la tache. Alors, sans souffler mot, il sourit à ses deux collègues. L'émotion transfigura l'inspecteur. Quand il parla, son accent fit le bruit d'un bâton qu'on promène sur une grille. « Parbleu, il n'y a pas de doute !» s'écria-t-il. « C'est Barker lui-même qui a marqué la fenêtre. La marque est plus large que celle de n'importe quelle bottine. Empreinte de pied plat, disiez-vous. Mais à présent, tout s'explique. Mais quel jeu joue-t-on ici, monsieur Holmes? Quel jeu joue-t-on? Oui, quel jeu, répéta Holmes, absorbé dans sa pensée. White Mason se mit à rire, en frottant ses mains grâce à un air de jubilation professionnelle. Je disais bien que ça ronflerait, fit-il. Et ça ronfle.